cette conférence sur la noblesse protestante au XVIIe siècle. Cette conférence donc termine quasiment le cycle consacré à la diversité protestante, cycle sur lequel nous nous sommes attardés cette année, donc avec de multiples sujets, tant des sujets cultuels, je l'ai déjà dit, que culturels. On a abordé des philosophes avec Kierkegaard. Frédéric Rognon était venu nous parler du philosophe danois, donc, mais aussi des écrivains comme André Gide, puisque Franck Lestingant nous a donné une conférence sur André Gide suite à la parution de son tome 1 de la grande biographie d'André Gide. Le tome 2, d'ailleurs, je le signale au passage, vient de sortir. Ce soir, c'est donc l'avant-dernière conférence de ce cycle. Sur la noblesse protestante, c'est Jean Hubach que nous remercions d'avoir accepté cette invitation, qui vient nous parler de cette question. Jean Hubach, actuellement, donc, prépare une thèse sur les assemblées politiques, les idées politiques au XVIIe siècle. Et il est l'auteur donc, de la Pédales, Pédales dans laquelle a joué Rohan un grand rôle, puisque Rohan, c'est le chef du parti protestant de la première moitié du XVIIe siècle. Rohan est aussi un gentilhomme et un des grands du royaume de France, avec son frère Soubise. Et évidemment, ce sont les derniers soubresauts, quasiment, de cette noblesse protestante. Il y en a eu d'autres. Il y a aussi, je pense notamment à Turenne. Il y en aura d'autres qui seront encore présents à la cour, comme Ruvigny, par exemple, qui jouera aussi un grand rôle auprès du roi, comme représentant des protestants auprès du roi. Mais cette noblesse s'efface petit à petit, perd de son pouvoir et laisse sa place à d'autres hiérarchies, d'autres autorités au sein du protestantisme. Et c'est ce que va nous décrire Jean Hubach pendant à peu près 40-45 minutes. Et puis après, donc, nous aurons un temps d'échange, de discussion, où vous pourrez faire vos remarques et poser des questions. Voilà, donc je vous laisse la parole.
Je vais vous donner le petit micro pour l'enregistrement. Si vous
voulez, je vous laisse le mettre
là, où vous voulez. Peut-être là, ce sera mieux encore. Voilà.
Bon, avant de commencer, je voudrais juste préciser une chose. Je n'irai pas jusqu'au marquis de Ruvigny. Parce que... Vous n'entendez pas ? Donc ce ne sera pas sur l'ensemble du XVIIe siècle que mon propos portera, mais sur la première moitié du XVIIe siècle, on va dire à peu près de la mort d'Henri IV, 1610, à la fin de la Fronde, et puis quelques queues de comète des années 1650. Mais je n'irai pas au-delà, et vous allez comprendre pourquoi. J'ai envie de poser une question provocatrice pour commencer. D'abord, si une histoire protestante, enfin une histoire de la noblesse protestante au XVIIe siècle est possible. C'est l'histoire d'un effacement progressif dans la haute noblesse. C'est l'histoire pour la moyenne noblesse de noyaux qui continuent, qui perdurent, mais dont on perd la trace historique. Parce que, vous le savez, avec la radicalisation de la législation antiprotestante en France à partir du début du règne personnel de Louis XIV, on a, les protestants se font beaucoup plus discrets. Donc, dans quelle mesure on peut faire une histoire de la noblesse protestante sur l'ensemble du XVIIe siècle, c'est assez compliqué. Sur le premier XVIIe siècle, c'est plus simple, et c'est bien pour ça d'ailleurs que je le ferai ce soir. Alors, se placer donc au premier XVIIe siècle pour tenter un portrait collectif d'un groupe social agrégé autour de privilèges et de pratiques religieuses minoritaires, c'est appréhender une période de transition ou de mutation. Alors, on est pris entre le temps des guerres de religion au XVIe siècle, au cours desquelles, vous le savez, la noblesse protestante a joué un grand rôle, puisqu'une partie de la famille devenue royale avec l'accession d'Henri IV au trône était protestante. Entre cette période-là et la période du règne de Louis XIV, où au contraire, il n'y a plus aucun noble de la haute noblesse qui soit protestant, Turenne à part, mais Turenne finit par se convertir, eh bien, on a cette période justement où, au fil des années, on va voir se désagréger le soutien de la haute noblesse au protestantisme. Donc, mutation numérique, mais c'est aussi une mutation sociologique et politique du protestantisme français. De manière un peu caricaturale, on a dit qu'on passe au premier XVIIe siècle de la domination du protestantisme par les nobles à la domination du protestantisme par les pasteurs. Et en particulier, la fin des assemblées politiques en 1629 aurait donné tout son poids aux synodes, dans lesquels, vous le savez, les synodes, on n'a pas le droit, enfin Louis XIII a décrété qu'il était interdit de parler de sujets politiques dans les synodes. On avait le droit uniquement d'aborder des sujets purement religieux ou purement liés à l'organisation des églises. Et donc ce sont les pasteurs qui ont pris la main un petit peu dessus. Alors, c'est pas aussi simple que ça, on va voir quelques exemples, et les nobles ont pu continuer à avoir une influence, même dans les synodes, puisqu'il y avait des représentants de la noblesse dans les synodes. L'autre difficulté pour appréhender la période, c'est justement cette prédominance au 1er XVIIe siècle de la haute noblesse. Or, la haute noblesse est très faible numériquement, et derrière la haute noblesse, il y a tout ce qu'on appelle la moyenne et la petite noblesse, qui, dans certaines régions de France, est encore largement protestante. Et elle est, dans les sources, relativement cachée par l'importance de la haute noblesse. Et parmi ces nobles, d'ailleurs, on retrouve la diversité des comportements qu'on retrouve parmi les autres protestants qui ne sont pas nobles. Il n'y a pas de spécificité, on va le voir, des nobles. Alors, bon, quelques questions pour problématiser. D'abord, dans quelle mesure l'histoire de la noblesse huguenote, donc de 1610 aux années 1650, est-elle l'histoire d'un alignement autour d'un basculement du basculement de 1629 ? Est-ce qu'on peut déceler des spécificités protestantes des nobles réformés ? Ou est-ce que finalement ce sont des nobles comme les autres, mais qui sont simplement et qui ont une foi différente de leurs homologues catholiques ? Est-ce qu'on peut déceler une unité confessionnelle qui permette donc de distinguer une noblesse protestante ? Et puis, est-ce que l'affirmation de quelques grands nobles jusque dans les années 1620 suffit à rendre compte d'une unité nobiliaire ? Bon, alors ça fait beaucoup de pistes. Je ne prétends pas vous faire le tour complet de ces pistes-là ce soir, sinon on n'ira pas dîner tôt. Je vais quand même esquisser un certain nombre de choses. Alors, d'abord, sur la question de la noblesse protestante. Est-ce qu'il existe une noblesse protestante ? Alors, je ne remets pas en cause l'existence de nobles protestants, mais est-ce qu'il existe un corps dont les différents éléments pris en bloc peuvent constituer une identité particulière ? Bon, alors d'abord, on va faire un peu de statistiques sur le nombre, les estimations qu'on a à propos de la noblesse. Alors, au début du XVIIe siècle, on pense qu'il y a à peu près 1 million de protestants en France, ce qui représente 9% de la population du royaume. Je mets de côté un cas très particulier, qui est le cas du Béarn, parce que dans le Béarn, l'édit de Nantes ne s'applique pas, et le Béarn est protestant. Et officiellement, tous les habitants du Béarn sont protestants. Bon, mais c'est officiellement, donc ça pose un certain nombre de difficultés. Bon. Alors, tout au long du XVIIe siècle, et pour expliquer le déclin démographique de la noblesse, il faut peut-être expliquer le déclin démographique du protestantisme en général en France, donc on a un déclin. On pense qu'en 1670, il y avait 800 000 huguenots en France. Sachant que la population du royaume a augmenté, on est à 4% du royaume, donc 9% à peu près en 1610, 4% en 1670. Donc une grosse perte. Avec deux, si on caricature, deux régions où la noblesse aura un poids différent d'ailleurs, le nord du royaume, grossièrement au nord de la Loire, le protestantisme a deux caractéristiques, il est surtout urbanisé et minoritaire. Dans ces communautés-là, quand on les regarde, la composante nobiliaire est beaucoup plus forte que dans le reste du royaume. Alors même que si on regarde le sud du royaume, où on a des communautés protestantes plus importantes, eh bien la composante nobiliaire est plus faible. Alors c'est normal, puisque quand on prend une communauté complète, avec plus de membres, comme dans le sud du royaume, eh bien on a une représentation sociale qui ressemble à la représentation globale du royaume, et donc un nombre de nobles équivalent à ce qu'on peut retrouver dans le reste du royaume. Mais dans le nord, en revanche, on a une prédominance quand même de la noblesse parmi les protestants. Cela dit, même dans le Nord, les situations sont très variées, puisque il y a des études qui ont été faites, des études statistiques, une histoire quantitative. Alors là, c'est une thèse des années 1980. Dans l'Orléanais-Berry, donc il y a eu des calculs des proportions d'origine sociale à l'intérieur des communautés religieuses. À Aubusson, 0,6% de nobles. À Dangeau, pas très loin, 23,5%. Bon. Donc même au sein d'une province, on a des écarts considérables. Alors ça, ce sont des propos généralistes sur le nombre de nobles. Alors maintenant, sur la distinction entre une haute noblesse et puis une noblesse moyenne. Alors dans la haute noblesse, au début du XVIIe siècle, les protestants sont encore bien représentés. Alors le duc de Rohan, dont Franck Belloir vient de parler, donc Rohan et sa famille, parce que sa mère est aussi une grande noble, son frère, le duc de Soubise, enfin qui deviendra duc de Soubise, le plus célèbre d'entre eux en 1610, Sully. Mais après, vous avez d'autres familles aussi, la Trémouille, les Diguières, les Comons La Force, les Châtillons, donc les descendants de Coligny, et encore un représentant de la famille royale. Alors, il n'est pas connu, c'est Henri II de Bourbon, marquis de Malause, qui est un descendant d'un bâtard de Jean de Bourbon qui vivait sous Charles VIII. Bon, et ce marquis de Malause, qui a un rôle dans l'histoire, c'est pas un prince du sang comme Condé pouvait l'être au XVIe siècle et avait pu avoir un rôle important dans le parti, dans la noblesse huguenote. Alors, cette haute noblesse, par des mariages, est liée entre elles, chaque famille est la plupart du temps liée entre elles, et ils ont des liens avec d'autres familles étrangères, des familles princières, en particulier avec deux familles, les Nassau, qui exercent leur pouvoir aux Provinces Unies, et les Wittelsbach, les Wittelsbach, comme vous voulez, du côté de la Bavière. Bon, pour vous donner une idée, par exemple, la fille de Sully a épousé le duc de Rohan. Bon. Mais par ailleurs, le fils de Sully épouse la petite-fille du duc de Lesdiguières. Une des filles du maréchal de la Force épouse un autre des fils de Sully. Et ainsi de suite, je ne vais pas vous faire la liste, mais ils sont liés entre eux par un certain nombre de mariages. On ne peut pas ne pas penser que la religion a joué un rôle dans ces mariages-là. Bon, déjà, les familles de la haute noblesse sont liées entre elles par des mariages, même chez les catholiques, mais là, vous avez quand même énormément de mariages liés sans doute à l'appartenance... Enfin, l'appartenance religieuse doit jouer un rôle. Alors, passé cette haute noblesse, on voit des nobles de la noblesse qu'on a appelée seconde dans l'histoire qui se sont illustrés dans certaines carrières. La diplomatie... Alors, un des représentants de cette noblesse, alors beaucoup plus récente pour le coup, Benjamin Aubry du Maurier, donc a fait l'objet de travaux très récents de recherche sur sa vie et sur les mémoires qu'il a laissées. Lui, il a été donc diplomate au service de la France auprès des Provinces Unies. Ce qui est intéressant, parce que je ne reviendrai pas sur son cas, ce qui est intéressant, c'est que quand il défend le cas français, à aucun moment la religion ne vient interférer dans son argumentaire politique. Et ce n'est pas parce qu'il s'adresse à des coreligionnaires dans les Provinces Unies que, pour autant, il va infléchir son discours vers un discours religieux. En revanche, ce n'est pas innocent si on envoyait un protestant aux Provinces Unies. Donc c'est, l'instrumentalisation du protestantisme par le pouvoir royal existe quand même. Bon, sinon, on a beaucoup de protestants qui exercent des charges officières. Donc des officiers, alors ça ne veut pas dire des officiers de l'armée, mais ce sont des gens qui exercent des charges qu'on appelle des offices, des gouverneurs de ville, un des plus connus est Philippe Duplessis-Mornay, qui était gouverneur de Saumur, des gouverneurs de région aussi, des offices dans l'entourage royal, Nicolas de Bertreville est gentilhomme de la Chambre du Roi, il sera aussi représentant des protestants auprès du roi. Et puis vous avez des carrières un petit peu atypiques qu'on ne peut pas trop classé comme Barthélemy Erwart, alors qui est un noble. C'est pas parce qu'on n'a pas de particules qu'on n'a pas une appartenance à la noblesse. C'est un noble d'origine bavaroise et qui a fait, donc qui a été naturalisé français, et puis qui a fait sa carrière au service financier de la monarchie. C'était un banquier. Et il sera d'ailleurs nommé intendant des finances. Des militaires aussi. Alors, des militaires, pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'une bonne partie de la noblesse estime que c'est encore son rôle d'aller se battre pour le roi, quelle que soit la religion. Et donc, parmi les protestants, ben, certains sont des officiers qui se distinguent particulièrement. Gassion, par exemple, ou, on va revenir sur son cas, Lesdiguières, donc qui tous les deux deviennent maréchal. Autre cas d'office un petit peu particulier, ce sont les offices d'intermédiaire entre les protestants et l'entourage, enfin le pouvoir royal. Et il y a deux types d'intermédiaires, il y a les délégués, enfin les députés généraux, pardon, des protestants, donc qui sont deux jusqu'en 1644, puis après un, et parmi les deux, il y en a un qui est un représentant de la noblesse. Puis quand il n'y en aura plus qu'un, ce sera un représentant de la noblesse aussi. Et eux, ils assurent le rôle de défendre auprès du roi les intérêts de la communauté ou des communautés protestantes. Rôle très compliqué dans les années 1610-1620, puisque pendant une partie de cette époque-là, une partie des protestants est en guerre contre le roi. L'autre rôle d'intermédiaire, joué par d'autres acteurs, ce sont les commissaires du roi que le roi impose dans tous les synodes à partir de 1623. Les protestants n'ont pas le droit de se réunir s'il n'y a pas un représentant du roi parmi eux, qui là aussi joue un rôle particulier, puisqu'il a une double casquette. D'un côté, il doit défendre les intérêts du roi et la législation, il doit rappeler la législation aux protestants réunis, et puis d'un autre côté, il essaye d'arranger aussi les choses à l'intérieur de la communauté protestante. Et le représentant le plus connu de cette charge de commissaire du roi dans les synodes, c'est Auguste Galland. Auguste Galland, alors lui aussi c'est un noble, mais alors un noble qui est fraîchement anobli, puisque son anoblissement date de 1610, donc très, très récent, et on ne peut pas considérer qu'on a le même type de noblesse ici que les nobles que j'ai cités avant. Alors en revanche, parmi les députés généraux des églises protestantes auprès du roi, ce sont des nobles d'ancienne extraction. Je vais vous en citer deux, par exemple. Jean de Jaucourt et Henri de Clermont-d'Amboise, marquis de Galrande. Le marquis de Ruvigny, dont vous parlez, Franck Belloir, tout à l'heure, ce sera le député général des Églises réformées de France auprès du roi à partir de 1653. Mais tout seul en poste, pour le coup. Hein. Enfin, lui, puis son fils. Noblesse ancienne, mais noblesse moyenne, hein, quand même. Bon, ça, c'est pour essayer de faire un tour à peu près exhaustif des situations qu'on peut rencontrer, même s'il est difficile d'en tirer un modèle du noble protestant, vous l'aurez compris. Deuxième aspect de cette noblesse, pour continuer, ce sont les privilèges qui sont liés à la spécificité protestante de cette noblesse. Bon, en avril 1598, vous le savez, l'édit de Nantes a été signé. Et vous ne l'avez peut-être pas en tête, mais il y a un article 7 qui stipule que les nobles qui ont haute justice pourront, et qui sont protestants évidemment, pourront entretenir sur leur terre un lieu de culte. Ce qu'on appelle le culte de fief. Donc c'est un privilège qui est accordé aux nobles protestants. Même s'il n'y a pas d'église dans le village, lui, il peut décréter qu'il y en aura une dans les terres nobles qui sont à sa possession. Ça, c'est le premier privilège. Deuxième privilège, c'est qu'avec l'édit de Nantes, vous avez des brevets qui étaient annexés, et il y en a un qui est le brevet des garnisons, qui prévoit donc que non seulement les protestants aient des places de sûreté, mais qu'en plus, dans les places de sûreté, ils entretiennent des garnisons, payées par le roi. Mais ce sont eux qui les entretiennent quand même. À la tête de ces garnisons, on place des gouverneurs, à la tête de ces places de sûreté, qui sont, dans une écrasante majorité, des représentants de la noblesse protestante, là encore. Autre avantage, dans le brevet des garnisons, alors même qu'il était interdit de pratiquer le culte protestant à la cour. Or, la cour est itinérante à ce moment-là, donc à chaque fois que le roi se déplace, c'est interdit de... Bon, je vous lis l'article. Les ducs, pairs de France, officiers de la couronne, marquis, comtes, gouverneurs et lieutenants généraux, maréchaux de camp et capitaines des gardes de sa dite majesté qui seront à sa suite. Donc ça, c'est la liste, en fait. Et vous voyez qu'on n'oublie personne. Mais c'est parce qu'il existe des représentants à chaque fois, encore vivants, protestants. Donc ceux-là, ils pourront librement professer leur religion dans un cadre familial et privé. Là aussi, c'est un privilège, parce que quand on n'est pas noble et qu'on ne fait pas partie de cette liste, on n'a pas le droit, hein, même si on est protestant, quand la cour est là. Alors, pourquoi en 1598, on prend ces règles, enfin, on impose ces règles-là? Bien, tout simplement parce qu'il y a encore énormément de protestants dans l'entourage d'Henri IV, qu'Henri IV décide aussi de ne pas trop froisser ses anciens coreligionnaires, et il s'est converti fraîchement, hein, 4 ans avant, donc, et ça s'est mal passé auprès des protestants. Bon, donc des protestants, des nobles protestants qui ont quand même qui ont une place importante. Et puis, l'édit de Nantes prévoit aussi que les protestants puissent organiser des assemblées politiques. Et dans les assemblées politiques, on voit très vite, en faisant des statistiques, enfin j'ai repris la liste des participants et puis j'ai regardé tous ceux qui étaient des représentants de la noblesse, dans ces assemblées politiques, vous avez entre 35 et 45% à chaque assemblée qui sont issus de la noblesse, mais qui sont députés en tant que tels. Vous avez des députés de la noblesse, enfin c'est comme les états généraux, vous avez des députés de la noblesse, des députés du corps des pasteurs, et puis des députés du tiers. La noblesse est surreprésentée, puisqu'on atteint, donc, comme je vous le disais, 45% par exemple à la première assemblée politique après la mort d'Henri IV, assemblée de Saumur en 1611, 45% de nobles. Et parfois, on retrouve présents des nobles de la haute noblesse. Ce n'est pas parce que ce sont des assemblées politiques que les nobles la boudent et que les hauts seigneurs la boudent. Au contraire, à Saumur en 1611, quasiment tout le monde était là, hein, Duplessis-Mornay, Coligny, Châtillon, Rohan, Soubise, Agrippa d'Aubigné, Biron, enfin, vous avez un regroupement, qui se passe très mal d'ailleurs, enfin, ça, c'est une autre histoire, de la haute noblesse. Et puis, c'est comme ça jusqu'à l'Assemblée de 1620, enfin qui dure un petit peu parce qu'elle se prolonge illégalement, on a toujours une forte représentation de la noblesse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces députés-là qui sont nobles, parce que parmi les pasteurs, si on cherche bien, il y a aussi des nobles. Par exemple, Nicolas d'Espinay, qui est ministre de Loudun, est un noble. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous voyez que c'est marqué d'Espinay qu'il est noble forcément. Hein. On peut avoir des armoiries, une particule, des terres nobles et ne pas être noble soi-même. Hein. Mais en l'occurrence, lui, il l'est. Donc voilà, une noblesse qui est quand même fortement impliquée au début du règne de Louis XIII. Des nobles aussi qu'on voit apparaître avec des comportements distinctifs pour le coup dans des assemblées un petit peu particulières comme les états généraux. 1614, vous savez, sont les derniers états généraux avant ceux de la Révolution française, ceux de 1789. Et sur l'ensemble des députés nobles qui sont là, il y en a 9 protestants. Ce qui leur pose bien des problèmes, puisque les autres nobles, les catholiques, ont décidé de mettre dans leur cahier de plainte un article disant que le roi devait s'engager à respecter son serment du sacre. Et vous savez ce qu'il dit pendant le serment du sacre ? Il promet qu'il va extirper l'hérésie du royaume et maintenir la religion. Donc les nobles protestants ont refusé de signer cet article et ont demandé à ce que ce soit qu'il y ait un article qui soit rajouté et qui assure la protection par le roi de la minorité protestante. Et là, on voit bien que pour le coup, ce sont des nobles qui se comportent différemment de leurs homologues catholiques pour une cause religieuse. Mais c'est rare. Enfin, ce sont des cas très rares. Hein. Enfin, suffisamment rares pour le noter. Bien, alors, pour finir ce tour en première partie donc, de la noblesse protestante, très rapidement, je voudrais m'intéresser à un traité sociopolitique paru en 1611, écrit par un noble protestant. Alors, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse le plus. C'est Louis Turquet de Mayerne, ce protestant, et c'est un anobli lui aussi. Mais surtout parce qu'il a un discours sur la noblesse. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir le discours qu'un protestant, enfin, la conception qu'un protestant pouvait avoir de la noblesse dans un discours théorique. Donc, Turquet de Mayerne, quand il fait paraître cet ouvrage, alors entre parenthèses, l'ouvrage est censuré. Il faut dire que dans l'ouvrage en 1611, il dit que les femmes n'ont pas le droit de, que c'est une aberration de laisser des femmes gouverner, qu'elles n'ont pas le droit de transmettre la couronne, enfin, alors même que c'est Marie de Médicis qui est régente. Alors, ça lui plaît que moyennement, et elle décide. Alors, il se fait arrêter, on brûle les livres, et puis il y a un interrogatoire qui est conservé d'ailleurs à la bibliothèque, enfin, les minutes sont conservées à la Bibliothèque nationale. Alors, bon, je reviens sur la noblesse quand même. Dans son traité, donc, Mayerne, lui, pour lui, la vraie noblesse, c'est pas celle de la naissance. Vous me direz, lui-même est un anobli. Quand il est né, il n'était pas noble. Alors, il prêche pour sa paroisse aussi. Alors, en quoi consiste la noblesse pour lui ? La noblesse, pour lui, c'est l'exercice d'une charge publique exercée le plus fidèlement possible par rapport au service de Dieu. Et on voit qu'il y a les deux dimensions, la dimension religieuse du respect du service de Dieu, et puis il y a la dimension politique de la mise au service du noble, enfin la mise au service, oui, de l'individu qui prend la charge pour la communauté, et en particulier pour l'État ici. Hein. Et donc, alors lui, ce qu'il aimerait, c'est que ce soit le roi qui décrète en fait qui est noble et qui ne l'est pas en fonction des mérites et en fonction des charges qui auront été accomplies par ces personnes-là. Alors, une conception qui ne fait pas du tout l'unanimité. Je ne prétends pas ici avoir un discours qui pourrait être représentatif de tout ce que les nobles protestants pensent. Rohan ne doit absolument pas penser ça. Aussi bien né qu'il est, il n'est pas question pour lui que tout le monde devienne noble à partir du moment où ils ont rendu service à l'État. Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est un protestant qui développe ce type de discours en 1611, sachant qu'il a écrit son traité avant. On a un discours de la fin du XVIe siècle qui est quand même assez, assez novateur. Bon, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je voudrais vous parler donc d'un autre aspect de la noblesse protestante pendant le règne de Louis XIII. Et qui rejoint le titre d'un livre d'Arlette Joanna qui a fait date, qui est dans la librairie à côté, je vous conseille d'aller le chercher si vous ne l'avez pas chez vous, « Le devoir de révolte ». Donc un livre d'Arlette Joanna qui retrace en fait les réactions de la noblesse face à la construction de l'État royal, entre le début des guerres de religion et le début du règne personnel de Louis XIV. Alors, on va le voir, il y a des nobles protestants qui se sont emparés de cette notion du devoir de révolte et puis qui l'ont fait leur. À propos des années 1610 d'abord, pour les Huguenots, c'est un temps d'incertitude. Henri IV avait garanti leur droit, leur liberté. Il décède. Tout de suite, Marie de Médicis renouvelle l'édit de Nantes. Elle dit qu'elle gardera la législation telle qu'elle est, mais ça ne les rassure pas. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, les protestants donc se réunissent très rapidement à Saumur, donc en mai 1611, une assemblée politique, avec la liste de tous les nobles que je vous ai cités tout à l'heure. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe pendant cette assemblée, et ce qui va d'ailleurs se passer pendant toutes les années 1610 et 1620. C'est la division radicale entre une partie des protestants menée, il faut bien le dire, par le duc de Rohan, qu'on appelle les fermes, donc division entre ces fermes, et une autre fraction du monde protestant, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus modérée dans ses prises de position, qui va être d'ailleurs menée là aussi par des grands noms de la noblesse, comme Duplessis Mornay ou comme le duc de Lesdiguières, et qu'on surnomme les prudents. Donc vous avez une division entre les fermes et les prudents dès 1611 et puis qui va perdurer comme ça jusque 1629 avec petit à petit une perte d'influence des fermes et au profit des prudents, si je caricature. Et donc à l'Assemblée politique à Saumur, en gros, la position des fermes, c'est ne rien lâcher face au pouvoir royal. La position des prudents, c'est au contraire, il faut montrer qu'on est soumis au pouvoir royal, quitte... alors, il faut toujours défendre ses intérêts. Hein. Duplessis Mornay est quelqu'un qui défend les intérêts des protestants jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Mais il veut le faire dans la plus stricte légalité, pas question de prendre les armes, pas question de faire des choses qui pourraient être mal perçues par le pouvoir royal et qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur les protestants, parce que c'est ça l'argument. Hein. Donc, division de la noblesse. Alors, le duc d'Orange joue un rôle particulier parce qu'on estime que c'est à partir de 1611 qu'il prend la tête de ces protestants particulièrement radicaux et il ne la perdra pas jusqu'en 1629. Avec une double dimension chez Rouen. Il y a la dimension haut seigneur, enfin grand seigneur, et puis il y a la dimension protestant. Ce qui prime pendant toutes les années 1610, au regard de la manière dont il prend les armes contre le pouvoir royal, il semblerait que ce soit plutôt la dimension grand seigneur. Il défend ses intérêts. Il défend les intérêts de sa clientèle. En tant que grand seigneur, il a une clientèle avec un certain nombre de nobles qui gravitent autour de lui. Il défend aussi les intérêts de sa famille. Dès 1612, il est aux prises avec Marie de Médicis, et dès 1612, il mobilise le parti protestant pour aussi défendre ses intérêts. Ça ne veut pas dire qu'il ne défend pas les intérêts des protestants aussi en général. Bon, il y a cette dimension-là, et puis vous avez l'autre dimension, qui est la dimension protestante. Alors, bon, on en discutait tout à l'heure, il n'est pas forcément évident de faire la part chez le duc de Rohan de l'instrumentalisation, enfin de ce qui est instrumentalisation des églises réformées au service de ses propres intérêts, et ce qui est conviction profonde qu'en défendant ses intérêts, il défend aussi les intérêts des protestants. Et je crois qu'il y a les deux, et qu'il ne faudrait pas voir dans le duc de Rohan, comme dans d'autres d'ailleurs, d'infâmes matérialistes qui sont intéressés que par les charges qu'ils vont pouvoir récolter après avoir pris les armes. Alors, un exemple, révélateur aussi, en 1615, le prince de Condé se soulève contre Marie de Médicis, parce que Marie Médicis avait projeté de marier Louis XIII avec un infante d'Espagne. Ça ne plaît pas au prince de Condé, qui se voit bien sans trop d'intermédiaires entre le trône et lui. Donc, plus il y a de mariages, plus il y a d'enfants potentiels, plus il y a de distance entre le trône et lui. Bon, le prince de Condé, donc, qui veut retrouver une place importante au Conseil royal, se révolte. Prince du sang. Donc c'est aussi, dans le devoir de révolte, il y a aussi la caution du prince du sang qui est importante. Dans la foulée, vous avez une série de hauts seigneurs protestants qui se révoltent aussi, dont le duc de Rohan, qui prend les armes, dont Agrippa d'Aubigné, qui prend les armes. Bon. Et autour du duc de Rohan, on voit s'agréger un réseau de fidélité, on va dire, hein, qui prête un serment d'assistance au duc, à Montauban d'ailleurs, en septembre 1615. Et puis vous en avez d'autres qui, au contraire, disent il n'est pas question que de se révolter, les diguerres et de cela. Bon, voilà, la division continue. Hein. Qu'est-ce qu'il récupère à la fin ? Comme toujours, quand il y a une prise d'armes, il y a négociation en même temps, et puis il y a une paix. Et donc en 1616, vous avez la paix de Loudun, et à la paix de Loudun, quasiment tous les grands, enfin tous ceux qui ont réussi à s'arranger, en particulier le duc de Rohan, récupèrent des charges. Donc, on ne se révolte pas pour rien. Agrippa d'Aubigné est un des seuls à rien récupérer. Il faut dire que jusqu'au bout, il dira qu'il ne veut absolument pas demander pardon au roi. Donc, ça, le roi, il faut demander pardon quand même pour obtenir quelque chose. Hein. Là, Agrippa d'Aubigné n'obtiendra rien. Et d'ailleurs, il devient très amer et il finira sa vie à Genève après avoir quitté la France. Donc on a bien... il y a d'autres révoltes, je ne veux pas rentrer dans le détail, ce n'est pas la peine. Mais ce qu'on voit, c'est que la mobilisation du parti huguenot, elle est le fait de la conjonction entre une aristocratie qui est prête à mobiliser ses réseaux et ses moyens militaires et une bourgeoisie du sud et de l'ouest du royaume, parce que parmi les radicaux, vous avez aussi bon nombre de bourgeois. Alors c'est vrai, du sud, dans le croissant huguenot, hein, de manière très caricaturale, qui va de La Rochelle au Dauphiné. Donc dans cette région-là, vous avez beaucoup de corps de ville qui soutiennent le duc de Rohan, hein, et qui le soutiendront aussi dans une moindre mesure dans les années 1620. Alors à propos de ces années 1620, Donc il y a eu trois guerres menées, alors qu'on dit les guerres de Rohan, parce que c'est le duc de Rohan qui en est devenu l'incarnation du côté protestant, 1621, 1622, 1625-26, et puis 1627, 1629. Et ces trois guerres sont l'occasion à chaque fois de voir qu'il y a une division de plus en plus nette dans les attitudes nobiliaires parmi les protestants. Et plus les guerres passent, moins Rohan arrive à mobiliser la noblesse protestante. Et on voit même qu'au cours de la première guerre, vous avez par exemple les Comons La Force sont du côté protestant. Alors, il faut dire qu'en jeu pour eux, il y avait aussi des places de gouverneurs qu'ils ont perdues. Eh bien, les La Force, on va les voir passer et combattre du côté des armées royales dans les guerres qui suivent. Henri II de Bourbon-Malos, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pareil. Très radical lors de la première guerre en 1621-1622, il prend les armes, il se bat toujours quand la paix est signée. Ça ne lui plaît pas trop. Alors, il ne se convertit pas, mais en revanche, il rallie le camp royal et les deux guerres suivantes, il s'oppose au duc de Rohan. Donc, on sent bien que dès les années 1620, en fait, même s'il n'y a pas énormément de conversion dans la haute noblesse, on a quand même une évolution du comportement de ces nobles protestants vis-à-vis du pouvoir royal. Alors, il faut dire aussi que l'Assemblée donc, de La Rochelle, celle de 1621, a publié un texte très particulier. C'est le règlement général, ça s'appelle. Enfin, ça commence, c'est le règlement général, j'ai oublié la suite, qui réorganise le royaume de France. Et qui l'organise selon une conception qui peut ne pas plaire à tous les grands seigneurs protestants. Alors, je m'explique. Ils redécoupent le royaume en 8 provinces, et ils placent à la tête du royaume, à la tête de chaque province, pardon, un grand seigneur protestant. Et à la tête de ces 8 provinces, ils placent une sorte de gouverneur général poste qui est offert au duc de Bouillon. Sauf que, qui les nomme ? Qui demande à Bouillon s'il veut bien être le chef militaire des protestants ? Qui va décider qu'à la tête de telle province, il y aura tel grand seigneur ? Ce sont les députés à l'Assemblée. Or, la conception nobiliaire à l'époque n'est pas prête. Enfin, ces grands seigneurs ne sont pas forcément prêts à admettre que leurs charges dépendent d'une assemblée collégiale qui prend ses décisions à la pluralité des voix. Donc là, on a une conception qui peut qui peut être mal acceptée, disons, par la noblesse. Au début, ils acceptent, hein, et puis dès que le roi arrive avec son armée, ils changent de camp très vite, et puis ils abandonnent la direction de ces provinces. Il y a que le duc de Rohan et le duc de Soubise qui vont jusqu'au bout et jusqu'à tout perdre, hein, puisqu'ils sont ruinés à la fin des guerres de religion. Alors, est-ce que ça suffit, est-ce que ces prises d'armes suffisent pour que, parmi les protestants, on puisse déceler un devoir de révolte, comme Arlette Joanna a pu le définir, pour une catégorie de grands seigneurs protestants ? Alors, la première chose à remarquer, c'est que quand on regarde les discours, les manifestes qui sont publiés par les nobles protestants à l'époque pour légitimer leur prise d'armes, ce qu'on constate, contrairement à ce dont on les accuse, c'est que le service de Dieu et le service du roi, pour eux, ne sont pas incompatibles. Et au contraire, ils pensent qu'en servant bien Dieu, ils servent le roi. Le problème, c'est que même en prenant les armes, ils pensent servir le roi. Alors, il y a un grand leitmotiv de la littérature politique de l'Ancien Régime, qui est le mythe la théorie du roi mal informé, qu'on voudrait mieux informer. Pour bon nombre de protestants, sans qu'on sache bien si c'est de l'auto-aveuglement ou s'ils sont vraiment persuadés de ce qu'ils disent, ou si c'est simplement un discours légitimateur dont ils ne sont pas dupes, mais enfin, pour un certain nombre d'entre eux, la prise d'armes se justifie par le fait que le roi ne sait pas, il se fait de mauvaises idées sur ce que sont les protestants, parce qu'il est mal entouré. les mauvais conseillers qui gravitent autour du roi et qui sont gagnés, c'est le complot jésuite, et qui sont gagnés au catholicisme, et encore pire, au catholicisme tridentin. Et donc leur but, en prenant les armes, c'est de montrer au roi où est la vérité sur leur propre identité. Alors vous voyez pourquoi je dis qu'on ne sait pas s'ils sont dupes ou pas de ce type de discours. Dans tous les cas, c'est un discours en légitimation qui fonctionne avec les protestants à ce moment-là, mais qui a fonctionné à d'autres époques pour d'autres causes. Hein. Ce n'est pas un discours typiquement protestant. Pour eux, donc, enfin pour ceux qui se révoltent, on va dire, hein, la résistance armée, c'est une forme de service du roi qui est plus fidèle que s'il s'agissait de se rendre et de dire non, on accepte d'être soumis à l'autorité royale, sans compter que dans les années 1610, bon, vous le savez, Louis XIII n'est majeur qu'en 1614, donc il y a la régence d'abord, puis après Marie de Médicis reste au pouvoir même si elle n'est plus régente, puis après Marie de Médicis, sous Marie de Médicis, vous avez en plus le favori Concini qui accumule les rancunes contre lui, bon, qui est finalement exécuté, assassiné par l'entourage de Louis XIII, mais ça n'empêche, il reste des favoris. Et ce sont bien ces favoris-là qui sont la cible, souvent, du discours des protestants révoltés. Le pire de ces révoltés, et d'ailleurs son fils sera un petit peu pareil, c'est le duc de Bouillon. Lui, il a quelque chose à défendre de très particulier, il est prince souverain de Sedan. Ça veut dire qu'il est prince étranger, donc il a un statut particulier, il n'est pas seulement noble français, et en tant que prince souverain de Sedan, lui, ce qu'il veut défendre, c'est l'indépendance de sa petite principauté, hein, c'est une miette sur la carte, mais elle est indépendante. Et elle est prise, en gros, il voudrait voir cette principauté comme un intermédiaire entre le royaume de France et les provinces unies. Le duc de Bouillon est allié à la famille des Nassau. Le problème, c'est qu'il est tellement comploteur. Son fils lui-même, donc le premier duc, donc meurt en 1623, mais bon, son fils est lui-même tellement comploteur qu'ils vont se voir confisquer la principauté de Sedan par Louis XIII. Ça n'empêchera que le duc de Bouillon finira par se convertir quand même au catholicisme en 1634, hein, 37, pardon. Bon, donc on a un devoir de révolte, mais qui n'est pas systématique parmi la noblesse. Bon, dans une troisième partie, et la dernière. Je voudrais essayer de voir avec vous comment on est passé de la soumission à la loi du roi à la soumission à sa foi. En vous parlant d'abord de tous ces nobles protestants qui sont restés au service du roi alors même qu'une partie de leur corps religionnaire était révoltée. Et alors c'est pour ça que je pense que parler de la noblesse huguenote au premier XVIIe siècle, c'est compliqué et qu'il faudrait au moins mettre les noblesses huguenotes, voire les nobles huguenots, pour être plus fidèle à la réalité. Le représentant, alors je vous ai parlé du Plessis Mornay, mais le représentant le plus emblématique reste le duc de Lesdiguières. Alors, noblesse ancienne, pas si haute que ça, mais noblesse ancienne quand même, qui s'est largement distingué Lesdiguières pendant les guerres de religion. Qui est un chef de guerre reconnu, âgé, à l'époque de Louis XIII, hein, qui est écouté par Louis XIII. Le rêve de Lesdiguières, ça aurait été d'être un précepteur militaire pour le roi. Bon, il n'a pas pu, mais enfin, on ne lui a pas donné ce rôle-là, mais il aurait bien voulu l'exercer. Et Lesdiguières, il est gouverneur du Dauphiné, province particulièrement charnière à cette époque-là, parce que vous savez, le royaume de France est en guerre avec le duché de Savoie, qui est de l'autre côté du Dauphiné. Et donc, on a un rôle clé du gouverneur du Dauphiné à l'époque pour empêcher les incursions soit espagnoles, soit savoyardes vers le royaume de France. Et en même temps, pour préparer les expéditions françaises du côté italien. Alors, Lesdiguières, constamment, depuis 1611 jusqu'à son décès, il écrit lettre sur lettre, qui sont publiées, d'ailleurs, il les fait publier. Hein. À l'époque, on écrit des lettres qui sont en même temps des manifestes. Hein. Et ces lettres-là sont publiées dans lesquelles il essaye de ramener ses coreligionnaires à ce qu'il pense être la raison. Et pour lui, la raison, c'est de se soumettre au roi. Il n'y a pas de meilleur garant des libertés des protestants que le roi, pour lui. Alors, il lui arrive quand même quelque chose qui fait que certains protestants estiment que son discours est préparatoire à cet événement. Il se convertit. Et il finit par se convertir au catholicisme, tout en continuant à avoir ce discours-là. Et d'ailleurs, dans la biographie qui est écrite par son secrétaire Videl, qui paraît en 1644, il est mentionné que s'il se convertit, c'est par... c'est en raison du degré absolu d'obéissance au roi auquel il est parvenu. Il obéit au roi au point de se convertir à sa religion. Sachez qu'en se convertissant, il accepte aussi la connétablie. Et donc il devient le premier officier de la couronne de France, avec le chancelier, grâce à sa conversion. Donc là aussi, l'intérêt matériel dans la conversion paraît immédiat. C'est le dernier connétable de France. À sa mort, il n'y aura plus de connétable. C'est estimé trop dangereux par le pouvoir royal ensuite. Parce que c'est le chef des armées. Donc. D'ailleurs, en tant que connétable, il se bat contre d'autres protestants. Et alors, le duc d'Orange et ses mémoires n'est pas tendre avec les Lesdiguières, puisqu'il écrit « Lesdiguières a hardé, ça veut dire troqué sa religion pour la charge de connétable de France. » Pour lui, il fait le lien entre les deux immédiat, alors même que quand on regarde ce que Lesdiguières écrit, c'est pas pour ça qu'il l'a fait. Il semblerait même qu'on lui ait proposé la connétablie avant qu'il se soit converti 2 ou 3 années avant, et qu'il l'aurait refusé. Mais on n'a pas de certitude. Alors c'est sûr que si c'est vrai, ça permet de relativiser. Donc voilà, une vie au service du roi, mais une vie de noble protestant en même temps, qui aura basculé. Alors, il lui reste plus longtemps à vivre, hein, puisque je ne sais plus en quelle année il est mort exactement. 1626, voilà. Et une fois qu'il est connétable, il reste 4 ans à vivre. Hein, donc, il est très âgé au moment où il devient connétable. Hein. Bon, de la même manière, on sait aussi que parmi les soldats du roi qui ont combattu les protestants, il y avait des nobles protestants. Au siège de La Rochelle, en 1628, il y avait des nobles protestants côté assiégeant. Et d'ailleurs, c'est un écho à des prises de position très fermes au début des guerres de Rohan. Il y a eu une assemblée de noblesse à Niort qui s'est réunie. Ils ont édité, enfin, ils ont fait publier un texte qui est une déclaration de respect aux ordres du roi et qui explique qu'il ne faut absolument pas suivre Rohan et tout ce qui pourrait advenir de mauvais ensuite pour la religion protestante. Et puis même Rohan. Bon, vous savez, 1629, la paix d'Alès, c'est la fin des places de sûreté pour les protestants, c'est la fin des assemblées politiques, et puis pour Rohan, c'est la fin d'une position éminente dans la société, puisqu'il a été ruiné par les guerres. Il a beaucoup investi lui-même, et il ne récupère qu'une partie de cet argent à la fin des guerres. Donc, la ruine et l'exil. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il est en exil, le duc de Rohan ? Il se met au service de la France. Et il va, en tant que diplomate et en tant que chef de guerre, œuvrer pour le royaume de France. D'abord à Venise, se mettre sous les ordres du chef de guerre Bernard de Saxe-Weimar. Et d'ailleurs, il meurt pendant une bataille menée au cours de la guerre de 30 ans, côté français. Hein. Donc on a une noblesse qui perd le goût de la prise d'armes et qui fait, après 1629, massivement profession de loyalisme. Alors comment on le sait ? Alors on le sait d'abord parce que c'est le discours général des protestants après 1629. On le sait aussi parce qu'en 1632, le duc d'Orléans, frère de Louis XIII, et le duc de Montmorency, autre grand nom de la noblesse mais catholique, se révoltent contre Louis XIII. Et le duc de Montmorency, il est gouverneur du Languedoc. Donc quand il se révolte, qu'est-ce qu'il cherche à agréger autour de lui ? Les noblesses. Et il va essayer d'agréger la noblesse protestante. Échec total. Hein. Donc la même noblesse protestante qui, pour une partie, s'était révoltée dans les années 1620, en 1632, ne se révolte pas. Alors il y a pu y avoir peut-être ici ou là des nobles, mais il n'y a pas eu de prise d'armes au nom de la noblesse protestante à ce moment-là. Grand bien leur en a pris parce que Henri de Montmorency a été décapité. Et durant la Fronde, c'est pareil. Alors, on n'a pas de témoignage, de ce que les nobles protestants collectivement ont pu faire pendant la Fronde. On a quand même, en 1652, une déclaration royale qui dit « D'autant que nos sujets de la religion prétendue réformée nous ont donné des preuves de leur affection et fidélité, notamment dans les circonstances présentes, dont nous demeurons très satisfaits. » C'est Mazarin qui l'a fait écrire, cette déclaration. Donc on sait au moins qu'il n'y a pas eu de mobilisation collective. Alors maintenant, il n'empêche que, on verra rapidement, Turenne est quand même un protestant et qu'il se révolte quand même. Mais pas dans n'importe quelle circonstance. Donc des nobles qui se rallient à la cause royale, des nobles qui se convertissent. Et pour le coup, ce ne sont plus des nobles protestants. Alors, bon, Rouen et Soubise, eux, ils meurent fidèles à leur foi, mais en exil. En revanche, leur famille, elle, va se convertir au catholicisme. Ce sont les Rouen Chabot, très rapidement. Henri de la Trémouille, il abjure durant le siège de La Rochelle. Les Bouillon, donc le duc de Bouillon se convertit en 1637. Turenne, qui est le frère du duc de Bouillon qui se convertit en 1637, lui, il se convertit en 1668. Ses neveux, les maréchaux de Duras, le maréchal de Lorge, ils se convertissent dans les années suivantes aussi. Les Châtillon, descendants de Coligny pourtant, se convertissent en 1643. Et puis, il n'en reste plus beaucoup au moment de la révocation. Et au moment de la révocation, alors c'est la dernière charrette de conversion, et puis sinon, pour un certain nombre d'entre eux aussi, c'est l'exil avec l'expérience du refuge. Alors pourquoi ils se sont convertis? Parce que c'est quand même la question essentielle. Alors, il n'est pas question de faire de la monocausalité et de dire qu'ils se sont convertis pour telle ou telle raison, point. Il faudrait vraiment essayer de considérer le faisceau des causalités. Il y a des causes potentielles d'ordre socio-économique. La noblesse, si elle ne s'enrichit pas par ailleurs, si elle s'assied sur les mêmes terres entre le début et la fin du siècle, s'appauvrit, parce que les revenus de la terre sont moindres. Donc, si les revenus de la noblesse baissent, sachant qu'un certain nombre de charges ne leur sont pas accessibles parce qu'ils sont protestants, ça a pu inciter des nobles à se convertir pour pouvoir récupérer une richesse qu'ils ont perdue. Bon, il y a la question de la religion du roi. Ça aussi, il ne faut pas non plus le balayer d'un revers de main. Le fait que le roi soit catholique incite la noblesse. Bon, le roi, c'est quand même le premier des nobles dans une société hiérarchisée et une société marquée par les divisions. Donc le fait que le roi ait une religion différente a pu motiver aussi des conversions. Et puis, on a des témoignages de nobles, parce que bien souvent, quand on est un haut seigneur et qu'on se convertit, ou même un seigneur moyen et qu'on se convertit, on a besoin d'expliquer pourquoi on se convertit, pour ne pas être accusé de s'être converti pour des motivations intéressées. Et dans ces justificatifs, on a aussi des motivations religieuses. Et certains expliquent que c'est après avoir discuté avec tel ou tel jésuite ou tel ou tel convertisseur qu'ils ont finalement reconnu que la religion catholique était la vraie. Et il y a des récompenses aussi. Là aussi, on ne va pas non plus dire le contraire. Il y a aussi beaucoup de récompenses. Duplessis Mornay, d'ailleurs, à chaque fois qu'il le peut, il dénonce les conversions en expliquant que derrière, il y a eu une récompense et que donc ce sont des conversions intéressées. Quelles conséquences de ces conversions? Là aussi, elles sont importantes. Puisque je vous ai expliqué, il y avait un culte de fief. Dès que le noble se convertit, le culte de fief disparaît. Or, pendant les années 1650 surtout, enfin à partir des années 1650, les catholiques ont voulu, de manière un peu anticipée, appliquer l'édit de Nantes à la rigueur, et donc ils sont allés chercher tous les endroits où il y avait des lieux de culte illégaux. Et ils en ont trouvé beaucoup, qui ont été supprimés. Donc imaginez le territoire où le lieu de culte est supprimé, où il reste un noble protestant qui a un culte de fief, s'il se convertit, ça veut dire qu'il n'y a plus d'occasion d'exercer sa religion sur le territoire considéré. L'autre conséquence importante, c'est qu'un noble, souvent, il est pris dans des réseaux. Et que quand il y a une conversion, on peut constater qu'il y a aussi des conversions dans le réseau nobiliaire. Et c'est jamais une conversion isolée, surtout quand ce sont des hauts seigneurs. Hein, un haut seigneur qui se convertit, ça a des conséquences sur le réseau de clients qu'il a autour de lui. Hein. Alors cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de nobles protestants. Simplement, après 1629, ce sont des nobles protestants, surtout dans la noblesse provinciale, les obereaux, hein, pour les appeler par un nom qu'ils ont. Et on en voit encore un certain nombre, hein, puisque dans une étude ancienne de la fin du XIXe siècle, pour les années 1660, en Normandie, il y a eu des recherches de noblesse, hein, puisque Colbert voulait faire ses recherches de noblesse. Donc 877 familles ont été recensées, ont pu prouver leur noblesse, et sur 877, il y en avait 74 de religion réformée. Donc 8,5%. Alors qu'on est en 1666 déjà. Sauf que ce n'est pas une haute noblesse, mais c'est une noblesse qui existe encore. Et puis certaines vont rester jusqu'à la Révolution. Hein. On a des nobles protestants, alors qu'ils ne pratiquent plus officiellement le protestantisme, hein, après 1685, mais quand même. Bon, et puis très très rapidement, parce que je vois que le temps est écoulé, ce qu'on constate... En revanche, c'est que des nobles protestants, individuellement, participent à des prises d'armes après 1629. On en a des témoignages, par exemple, pour les années 1650, donc tardivement, après le règne de Louis XIII. Sauf qu'ils ne participent pas en tant que nobles protestants, ils participent en tant que défenseurs de la noblesse. Donc, dans ce qu'on a appelé des révoltes nobilières, alors 1652... surtout dans le sud du bassin parisien et l'ouest du bassin parisien, et puis à nouveau en 1658-1659, on a des mobilisations nobilières dans lesquelles on retrouve des noms du protestantisme, mais sans aucune allusion à leur protestantisme. Ce sont des mobilisations fondées sur l'appartenance sociale et non pas sur l'appartenance religieuse. En revanche, ça a pu être un ressort socio-familial de la mobilisation. Parce qu'on voit que les familles qui se mobilisent, ce sont des familles dont des membres sont mariés entre eux. Bon, et puis pour finir, le cas de Turenne quand même. Parce qu'on a là un noble issu d'une famille très prestigieuse, les Latour d'Auvergne, donc la famille de Bouillon. Lui-même, grand chef de guerre, qui est arrivé... au fait des honneurs, sans même se convertir, il est maréchal de France, alors qu'il est toujours protestant, et qui finit quand même par se convertir en 1668. Auparavant, il s'était révolté pendant la Fronde. Turenne et Condé, ce sont les deux parcours asymétriques, c'est-à-dire que Condé, au début de la Fronde, est soutien du roi, alors que Turenne est opposé, enfin dans la Fronde, et puis à la fin, c'est l'inverse, Turenne s'est retourné et s'est mis au service du roi, alors que Condé est passé du côté des frondeurs. Eh bien, quand on regarde les placards qui ont été affichés par Turenne dans Paris au moment de la Fronde, rien ne dit que c'est un grand seigneur protestant, rien. On est sur des revendications purement nobilières, il n'y a plus de combat pour la religion comme on pouvait l'avoir dans les années 1610 ou 1620. Et donc, le cas de Turenne, qui finit par se convertir, alors lui, il dit qu'il a été travaillé, si on peut dire, par Bossuet. Donc, quand il se convertit, là aussi, il y a des textes, on explique qu'il se convertit parce qu'il a été convaincu. C'est pas par intérêt. Je dis pas que c'est vrai, hein, j'en sais rien. Je vous dis que ce sont les textes qui nous le disent. Bien, quand il se convertit, il devient donc un noble catholique, mais sans que son comportement global en soit affecté. Donc pas d'identité religieuse chez lui dans son comportement de noble. Donc pour conclure, et pour reprendre une métaphore balzacienne, l'histoire de la noblesse huguenote au 1er XVIIe siècle, c'est bien l'histoire d'une peau de chagrin. Une noblesse qui a été déstabilisée par la désaffection des grands, d'abord, des grands seigneurs, par la législation royale qui a fermé aux nobles l'accès à un certain nombre de carrières des honneurs, et par la fin de l'organisation politico-militaire du parti protestant, par la fragilisation des revenus de la terre, voilà, si on essaie de faire un tour de causalité possible, eh bien cette noblesse, donc, elle se réfugie dans un exercice discret de son culte ou alors elle abandonne la foi de ses ancêtres. Et à partir de 1660, donc, l'application de l'édit de Nantes à la rigueur provoque des expériences d'exil. Alors, il y en a eu avant, Rohan, Soubise, mais plus massivement, exil de famille ou d'individus vers le refuge. Et ce qu'on voit, c'est que progressivement, les spécificités de la noblesse protestante se réduisent au champ purement confessionnel et ne touchent plus les domaines, le domaine politique ou le domaine militaire. Et il n'y a donc plus, au second XVIIe siècle, d'expression spécifiquement politique de la noblesse protestante. Certains pensent que les protestants dans leur ensemble y ont gagné. Parce que dans le rapport au pouvoir royal, ça a apaisé la situation. C'est vrai pour les années 1630, c'est vrai pour les années 1640. D'ailleurs, certains historiens parlent d'une période, d'un âge d'or du protestantisme en France. Après, c'est moins vrai, mais il faut dire qu'on a changé d'époque et que l'Église catholique a réussi aussi, pas que l'Église catholique, hein, le pouvoir royal, à penser qu'il fallait éradiquer le protestantisme pour pouvoir asseoir son autorité. Je suis désolé, j'ai un peu plus longtemps que...
Merci beaucoup. Et alors, merci beaucoup. Vous avez bien montré un parcours varié de cette noblesse et complexe aussi, hein, avec tous les enjeux de pouvoir... en particulier tous les enjeux politiques. Je pense que ça soulève un certain nombre de questions. J'en ai une avant de laisser la parole au public. Cet abandon finalement de la politisation, hein, puisque c'est la noblesse qui jouait quand même un rôle politique dans cette époque du 1er XVIIe siècle, est-ce que cette politisation glisse vers un autre corps, vers un autre courant du parti protestant, ou est-ce qu'elle est complètement abandonnée par le parti protestant? Et puis, question qui est liée, est-ce que finalement cet abandon politique, hein, du parti protestant, qui disparaît quasiment, on peut dire, dans les années 1629, 1630, avec la Pédalès, est-ce que finalement ça permet un regain de la piété, je dirais une énergie plus transférée vers la piété, vers une organisation administrative, religieuse, véritablement des protestants dans le royaume de France, plutôt que cette organisation politique qui était quand même très, très présente dès les débuts, en fait, hein, de la réforme en France.
Oui, alors là, ce sont les travaux tout récents de Hugues Dossy sur l'organisation politique des protestants au début des guerres de religion qu'il faudrait lire, mais je crois qu'ils ne sont pas encore publiés. Enfin, alors, si on regarde les sources imprimées, enfin tout ce qui a été imprimé au XVIIe siècle. Avant 1629, beaucoup de nobles protestants s'expriment dans des manifestes, dans des lettres. Après 1629, il y a toujours une expression politique des protestants, sauf qu'elle change à la fois de contenu et elle change pour en partie d'auteur. On n'a quasiment plus d'expression nobiliaire parce qu'il n'y a plus de révolte. Et puis, donc ce sont beaucoup de pasteurs qui écrivent. Et puis, on a un changement de contenu, surtout. C'est-à-dire que là où il y avait encore une pluralité des voix avant 1629, on a un discours qui s'uniformise largement après 1629, qui est un discours loyaliste, voire absolutiste, et qui est porté par les protestants qui restent organisés. Alors, on ne parle plus de parti protestant parce qu'on considère qu'il n'y a plus d'organisation politique ni militaire après 1629. Bon, il n'empêche qu'il existe toujours des synodes. Mais vous le savez, même les synodes nationaux vont disparaître. Hein, et Louis XIV n'autorisera pas de réunion de synodes nationaux. Donc il est difficile après d'avoir une organisation. Le seul témoin d'une organisation au niveau national, c'est l'existence de ce député général qui est représentant auprès du roi. Enfin, Ruvigny aussi, il a joué une carrière auprès du roi. Hein. Il a eu un rôle un peu particulier quand même. Donc, Oui, d'autres prennent. Il y a une poursuite du discours politique mené par les protestants après 1629, sauf qu'il est plus porté, par des représentants de la noblesse, en tout cas pas des représentants de la haute noblesse.
Il change de contenu aussi.
Et puis, alors, il change de contenu. Le contenu loyaliste des années 1610-1620 devient le contenu unanime ou quasiment des protestants. L'autre question sur le regain ou pas d'une piété, est-ce que ça aurait permis finalement de soulager l'organisation protestante de quelque chose qui pouvait les empêcher de se manifester, de manifester leur foi avant 1629. Cette question-là, elle est extrêmement complexe et parce qu'elle est liée à un contexte de volonté de la part des catholiques de convertir les protestants. C'est-à-dire que même si les protestants ont une existence reconnue dans le royaume, même si le roi renouvelle l'édit de Nantes, mais pas son contenu politique ni son contenu militaire, hein, mais il renouvelle l'essentiel de l'édit de Nantes en 1629, il n'empêche, l'objectif des catholiques, c'est quand même d'arriver à l'unité du royaume d'un point de vue religieux. Donc les protestants, ils sont de toute façon toujours sur la défensive. Alors, même si on parle d'un âge d'or pour les années 1630, 1640 et en partie 1650, ça reste assez limité comme âge d'or. Hein. Donc, c'est difficile d'avoir une expression. On ne peut pas considérer qu'il y a eu un regain. Il y a eu un apaisement dans la politique de défense, mais il n'y a pas eu de regain après 1629. Hein.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ?
Alors, vous savez, il y a eu l'année dernière la parution d'un livre comme ça, ou il y a deux ans, je ne sais plus, non, je crois que c'est l'année dernière. Je ne me souviens plus du titre, mais c'est si la Saint-Barthélemy, en gros, n'avait pas eu lieu. Et l'idée, c'est d'écrire une histoire fiction en imaginant que le royaume se serait converti au protestantisme plutôt que de. La thèse de cet auteur, personnellement, je ne partage pas ce type de perspective, enfin de démarche. Mais pour essayer de montrer comment le royaume aurait pu se convertir au protestantisme, il y a nécessairement le jeu de la noblesse. Et il y a aussi nécessairement, un jour ou l'autre, la conversion de la famille royale. Si la famille royale ne se convertit pas, on n'est pas dans une époque suffisamment tolérante pour que, finalement, un groupe protestant puisse s'épanouir et puis, au fur et à mesure, gagner la majorité des habitants du royaume de France. Cette époque-là, c'est quand même l'époque de la guerre de 30 ans en même temps. C'est une guerre de religion aussi, la guerre de 30 ans, hein, entre des princes catholiques, des princes protestants, et qui sont pas tendres entre eux. Donc tant que le pouvoir royal ne se convertit pas, c'est un peu l'échec. Enfin, ça scelle l'échec de toute façon. Donc il faudrait imaginer dans ces cas-là une conversion de l'entourage royal. Mais bon.
Basculer les rapports de force.
Vous voulez dire si.
Plus dur, plus long peut-être.
Oui, sans doute sur la longueur, sur, ça c'est sûr. Oui, aussi sur la longévité, si je puis dire les choses comme ça, c'est-à-dire sur le fait que, si on imagine la situation, hein, si ni le roi ne se convertit, ni les protestants n'abdiquent, et qu'en même temps ils sont majoritaire dans le rapport de force, j'ai envie de dire que ça aurait pu durer longtemps. Et que s'il n'y en a pas un qui cède, il est probable que... c'est une situation explosive qui n'a pas existé comme ça de manière durable. Regardez l'Angleterre, au même moment. Ce qu'ils font du roi, ils lui coupent la tête. Mais parce que là aussi, il y a des questions. Alors, il y a des questions politiques, mais il y a des questions religieuses aussi derrière. Hein. Oui.
Justement, il ne faut pas oublier le rôle de l'Angleterre. Il ne faut pas oublier que presque dès le début, Rohan se tourne vers l'Angleterre aussi.
Alors, le duc de Rohan, et c'est ce qui lui a été reproché d'ailleurs, il se... dans son organisation, il se considère comme accrédité pour aller passer des alliances à l'étranger. Alors évidemment, les Anglais sont protestants, les Anglais ne sont pas très loin, La Rochelle est un port, enfin bon, on peut... donc il y a... Et en plus, il y a des liens d'affinité entre les Rohans et les Anglais. Donc oui, ils vont se tourner vers les Anglais. Mais le fait de se tourner vers les Anglais a suscité bien des débats parmi les protestants. Hein. Parmi les assemblées politiques, ça a été l'objet de débats. Sans compter que ceux qui étaient contre savaient très bien que ça allait être un motif d'accusation. Vous pactisez avec des étrangers. C'est interdit. Hein. Cela dit, il est fort probable aussi qu'il ait essayé de traiter avec l'Espagne, qui pourtant est catholique. Parce qu'il y a un moment où la nécessité... alors pour les Espagnols, c'est du pain béni, puisque leur but, c'est d'entretenir la division et l'affaiblissement du royaume de France qui leur fait concurrence. Donc, bon, pour les Espagnols, c'est... Mais en revanche, pour Rohan... Se tourner vers une puissance catholique, qui plus est l'Espagne, pour lui demander des subsides, c'est parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Parce que les Anglais ont finalement signé la paix avec la France. À la fin, enfin, 1628, les, enfin, 1628, les tractations, 1629, avant la paix d'Alès, hein, les Anglais signent la paix avec Louis XIII. Et donc Rohan se tourne vers un autre pourvoyeur de fonds. Mais oui, le cas anglais est déterminant. Il est déterminant aussi sur l'évolution des protestants ensuite. Parce que comme les Anglais décapitent, enfin non, oui, si, décollationnent, on va dire, leur roi, et qu'ils sont protestants, en France, il y en a pour dire, vous avez vu ce que les Anglais, les protestants anglais ont fait au roi, à leur roi. Donc les Anglais sont bien des sales républicains qui troublent le royaume. Bon. Donc c'est, en fait, dans la foulée du début de la Révolution anglaise, pendant toutes les années 1640, les protestants ont écrit, les protestants français, ils ont écrit pour dire que ceux qui font la Révolution d'Angleterre, ce ne sont pas les mêmes protestants qu'eux, et qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec eux, et qu'eux sont pour le respect des autorités et pour le respect du roi. Hein. Donc le rôle anglais est très important, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Il fait nuit aussi.
Il fait nuit, oui.
Oui. Dans le débat théologique,
oui,
sur les Capucins ou le grand bossuet Porturène, il y a les pasteurs aussi, quand même, qui étaient capables de répondre aux attentes et aux questionnements spirituels des hommes,
oui,
comme le peuple.
Mais...
On a l'impression qu'il n'y a que le côté catholique qui est envisagé.
Non, 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 parce que dans le cas de Turenne, par exemple, le processus de conversion, de toute façon, ne peut aller à son terme que si Turenne se met dans une position où il accepte de recevoir le discours de l'autre. Bon. Mais c'est vrai que de toute façon, tout le siècle est émaillé de controverses théologiques entre les protestants et les catholiques. Entre les protestants eux-mêmes aussi, d'ailleurs, hein, mais entre les protestants et les catholiques, et vous avez des pasteurs qui sont estimés aussi bons orateurs que les grands convertisseurs catholiques et qui, dans des joutes oratoires, défendent les arguments protestants. Maintenant, globalement, sur l'ensemble du siècle, on est plutôt dans une situation où les catholiques sont dans une phase de reconquête. Mais pas seulement théologique, ils sont dans une phase de reconquête aussi dans les villes. Je lisais là tout à l'heure le cas de Blois, par exemple. À Blois, les années 1620-1630, ce sont des années où les catholiques reconstruisent les églises, où ils réinvestissent l'espace urbain. Alors même que vous avez une bourgeoisie horlogère à Blois qui est en partie protestante. Donc il y a un réinvestissement global de la société par le catholicisme. Donc ça ne veut pas dire que les pasteurs ne sont pas là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens de se faire entendre aussi bien qu'avant. Turenne, en partie, est à la cour. À la cour, on n'entend pas les pasteurs. Hein. Et Bossuet fait figure de grand orateur. Et d'ailleurs, la conversion de Turenne passe pour un de ses hauts faits. Enfin, à Bossuet. Hein. Pas à Turenne.
Vous avez cette reconquête sur Alès aussi, avec les suspiciens hein, qui viennent sur Alès avant la paix d'Alès hein, et qui justement reposent ces marques de reconquête et qui vont écouter les pasteurs pour bientôt fête de leur prédication, savoir comment dire aiguiser leurs arguments pour s'opposer à leur prédication. Ce sont des suspiciens, ce sont des convertisseurs très doués hein, et puis très dynamiques. Mais par rapport au pasteur, il y a aussi Drolincourt qui a répondu quand même à Bossuet. Il y a des gens qui sont très compétents.
Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Non, mais ça, je dis pas le contraire. Il y a une série de grandes figures pastorales du XVIIe siècle, jusque dans le refuge après. Hein, Bayle ou Jurieux, les Banages sont des grandes figures du protestantisme du XVIIe siècle. Mais c'est vrai que voilà, il faut regarder du côté de Charenton, en fait. Où on va avoir le discours le plus efficace, parce que Charenton, c'est la paroisse que fréquente la noblesse de cour. Puisque c'est la noblesse de Paris, c'est la paroisse de Paris, de l'agglomération parisienne, puisqu'il ne peut pas y avoir de temple dans Paris. Bon, à Charenton, vous avez aussi des grandes figures du pastorat, mais le dossier de la conversion de Turenne a fait couler beaucoup d'encre. Si on estime que ce sont des motifs. Si on accepte l'idée que ce sont des motifs qui ressortent, enfin, qui ont trait à la religion, c'est que Turenne avait décidé de se convertir et que donc, dans ces cas-là, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où il y a une décision qui est prise d'une certaine manière. Donc, la voix des pasteurs n'a plus de. Comme avant, la voix des catholiques n'avait pas d'impact. Oui, oui. Il est en fin de vie. Il est proche de son décès. Il n'est pas si vieux que ça. Mais oui. Non, mais après, c'est vrai que Turenne s'est beaucoup battu. Hein, on estime aussi que la vie qu'il a eue a pu avoir une influence sur la manière dont il a ressenti la nécessité de se convertir. Chez Turenne, il y a aussi quand même une haute conscience de ce que c'est qu'un noble au service du roi, un noble d'épée. Hein. Et pour lui, il a accompli la carrière qu'il devait accomplir au service du roi. Et la conversion, c'est un peu comme Lesdiguières, hein, quand son secrétaire dit que c'est le plus haut degré de l'obéissance que de se convertir à la foi du roi, il y a aussi peut-être de ça chez Turenne. Hein. C'est pas parce que ce sont des modes de pensée qui nous paraissent étranges aujourd'hui. Qu'il ne faut pas ne pas les imaginer comme étant recevables pour le XVIIe siècle. S'il les exprime, dans tous les cas, c'est qu'il y a une intention derrière. Hein.
Est-ce qu'il n'y a pas la sacralisation aussi de la personne royale qui est très forte quand même ? C'est le roi très sacré auquel il faut obéir. Être un homme, c'est être fidèle au roi, qui est le roi sacré, donc aussi finalement s'arrimer à sa même foi. Est-ce qu'il n'y a pas ça qui joue cette sacralité de la personne royale ?
Ça joue aussi, mais ça joue aussi. Alors paradoxalement, ça joue aussi dans le devoir de révolte. Des nobles qui se révoltent, c'est parce qu'ils ont une idée très haute de ce que c'est qu'un roi. Sauf que pour eux, le roi n'agit pas de manière conforme à cet idéal. Donc il faut agir pour que l'idéal soit à nouveau, enfin soit rétabli. L'idéal, souvent mythologique d'ailleurs, enfin mythique. Non.
Je sais pas, j'ai envie de comparer un peu à l'Allemagne où c'était un prince sur une religion. En France, il y a vraiment une étatisation.
Les protestants sont partisans de la pluralité des religions du moment que eux peuvent en bénéficier. Donc pour eux, ça ne les dérange pas qu'un roi soit roi de sujets de religions différentes. Sauf que pour beaucoup de ces protestants, même pour ces protestants-là, il y a quand même un but de réunion des églises au bout. D'ailleurs, c'est aussi ça qui a créé des divisions parmi les protestants, c'est que certains étaient partisans de la réunion des églises, c'est-à-dire que les catholiques et les protestants se retrouvent dans une même église. Après, on peut tous être d'accord, ça dépend de la manière dont on va faire la réunion. Est-ce que ce sont les catholiques qui vont devoir réformer leur église pour que ça ressemble à ce que les protestants pratiquent déjà, ou est-ce que ce sont les protestants qui doivent arrêter de fourvoyer et puis réintégrer le giron de l'église catholique? Bon. Donc, en ce sens, on a une exception française pendant un temps. Un roi, plusieurs religions... Alors, plusieurs, pas tant que ça. Ce qui est considéré comme des sectes protestantes à l'époque n'a pas le droit de citer. Hein, mais dans un cadre très codifié, avec une législation qui organise les relations entre les différentes communautés, c'est très rare. Maintenant, à partir du moment où... et ça, c'est accepté par le roi, tant que les protestants ne sèment pas le trouble dans le royaume. D'ailleurs, Louis XIII le dit tout le temps. Enfin, les déclarations royales le disent tout le temps. On se bat contre les protestants, on soumet les villes, non pas parce que ce sont des protestants, mais parce que ce sont des rebelles, ce sont des sujets rebelles. Et en 1629, on dit, vous voyez, la preuve qu'on ne va pas châtier les protestants tant que protestants, on leur conserve leurs droits religieux. Mais en revanche, les sujets rebelles, eux, on va les châtier, puis on va leur retirer tous les privilèges politiques et militaires liés à ça. Donc l'existence de sujets d'une autre religion est pensée. Mais l'objectif, comme dans l'édit de Nantes, c'est d'arriver à terme à la conversion pour le pouvoir royal. Et dans les déclarations royales qui suivent l'édit de Nantes au cours du règne de Louis XIII, il y a toujours cet objectif d'arriver à terme avec d'autres moyens, moyen de la séduction, on va dire, moyen de la persuasion, à la conversion des protestants. Donc pour le pouvoir royal, il n'y a pas de modernité, de ce point de vue-là. Pour les protestants, il y a une modernité conjoncturelle, on va dire. Parce que le principe d'un prince protestant avec des sujets protestants ne les dérange absolument pas. Vous voyez le Béarn. D'ailleurs, c'est à propos du Béarn qu'ils prennent les armes en 1621. Donc...
Est-ce qu'on a des renseignements sur la façon dont le peuple ou la bourgeoisie a pu réagir aux conversions des nobles protestants? Est-ce que ça les a scandalisés? Est-ce que ça les a...
Alors, on n'a pas de témoignage qu'on pourrait penser partagé parce que émanant d'une collectivité. On a des témoignages ponctuels quand on lit des mémoires et quand on voit... un protestant qui écrit sur la conversion d'un autre protestant. Souvent, le jugement n'est pas très positif, parce que derrière, on met toujours des motifs d'intéressement personnel. Mais on peut pas en inférer une vision que, par exemple, les bourgeois protestants auraient pu avoir collectivement de la manière dont les nobles se sont convertis. Ça, ce serait une extrapolation... Alors, pas imaginaire comme imaginer la conversion, mais peut-être un peu dangereuse, parce que tant qu'on n'a pas trouvé de source qui permette de l'approuver, de l'affirmer, pardon, c'est difficile.
Mais finalement, pas tellement de sources de ce côté-là.
Sur ce point particulier, là, à ma connaissance, non.
Bien, bien.
Alors, attention, je vais reprendre mon propos quand même pour qu'il y ait de... dans la haute noblesse, les proportions sont écrasantes. Enfin, on a un pourcentage très important de conversion au cours du XVIIe siècle. Dans la noblesse moyenne, déjà, c'est plus partagé. Hein. On a des représentants qui se convertissent, d'autres qui continuent à pratiquer leur foi. Sauf que bien souvent, qu'est-ce qui reste dans les sources? Il reste les grands seigneurs, parce qu'ils sont grands seigneurs, et puis quand ce sont des nobles moyens qui se convertissent, on a des témoignages aussi, parce que bien souvent, il y a le besoin d'expliquer pourquoi on se convertit. Mais tous ceux qui ne se convertissent pas, ben, eux, ils sont moins présents dans les sources. Alors du coup, il ne faudrait pas avoir une vision totalement biaisée en se disant... Mais cela dit, la proportion de nobles qui s'est convertie est sans doute supérieure à la proportion de protestants qui se convertissent au catholicisme. Mais il faut Là, pour le coup, c'est l'appartenance à la noblesse qui fait que... y a les réseaux de fidélité, comme je l'ai dit, hein, qui sont importants, mais vous avez aussi l'appartenance à un corps dont le roi est la tête. Cette conscience est plus forte dans la noblesse, globalement, que dans la bourgeoisie. Et puis, on a bloqué quand même un certain nombre de carrières. Hein. Parce que la carrière la plus facile pour les nobles, c'était d'être officier, dans l'armée, pour le coup, où ils avaient le droit de pratiquer leur religion. Hein, mais rapidement, on n'a plus trouvé de promotion vers les officiers, des carrières d'officiers généraux pour les protestants. Et donc, pour pouvoir débloquer ces verrous, la conversion était encore un moyen qui permettait de le faire. Donc, il y a une part sociologique dedans hein, aussi. Alors, ce qu'il faudrait explorer, c'est le rôle des femmes. Parce que je vous ai parlé que des hommes. Parce que on sait, on a des témoignages, souvent, la religion de la mère est transmise aux enfants. Alors, parmi les femmes, on a aussi ces vagues de conversion. Hein. C'est de la même manière, on les retrouve, enfin, on les a chez les hommes, on les a chez les femmes. Je ne veux pas vous dire de bêtises sur les femmes, on n'a pas, ça n'a pas été assez creusé historiquement pour qu'on puisse avoir un discours sur les femmes, la noblesse protestante au XVIIe siècle, c'est, bon, malheureusement. Donc il faudrait explorer la présence des femmes et du coup avoir une idée de la manière dont la conversion s'est répandue dans les familles. Parce que peut-être qu'en passant par le truchement des femmes, on aurait une idée de cet aspect-là. Cela dit, on constate quand même que quand un père se convertit souvent, il y a d'autres membres de la famille qui se convertissent aussi. C'est le cas, par exemple, des Bouillons. Hein. Même s'il y a du temps entre les épisodes de conversion, enfin, quand Turenne se convertit, il a deux neveux qui sont maréchaux de France, tous les deux, qui se convertissent aussi dans la foulée. Bon. Donc, il y a quand même des liens familiaux.
Est-ce qu'il n'y a pas eu les mariages mixtes, là, déjà ?
Alors, c'est ce que je voulais dire, c'est que dans quasiment toutes les familles, on a des familles biconfessionnelles. Des familles dont toutes les lignées sont protestantes du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIe siècle, c'est quand même extrêmement rare. Et pour le coup, non seulement c'est pas rare, mais c'est pas rare à des degrés de parenté parfois proches. Vous avez des cousins germains qui sont de religions différentes et ça pose pas de problèmes familiaux. Alors c'est vrai que quand la partie protestante se convertit, enfin quand la branche protestante se convertit au catholicisme, on a à nouveau une unité confessionnelle dans la famille. Mais ça n'a pas posé de problème pendant des décennies, hein, cette biconfessionnalité.
Il y a des stratégies, il y avait des volontés de, par mariage, justement, de faire basculer dans le catholicisme.
Oui. Oui, non, mais là aussi, le mariage a toujours été stratégique à l'époque moderne. Tant que ça n'a pas été un mariage d'amour, ce sont des stratégies. Et les stratégies, elles ont pu être religieuses aussi.
Parce que c'est le cas des Rohan Chabot.
Oui, mais parce qu'il ne restait plus qu'une femme aussi. Hein. La sœur de Rohan et Soubise, qui est Marguerite de Rohan, c'est elle qui porte le nom et c'est la dernière à porter le nom. Donc, Chabot, qui était un noble, un petit noble, hein, c'est pas comme les Rohan, catholique, se marie avec Marguerite de Rohan. Et les enfants, les Rohan Chabot sont catholiques. Voilà. Et là, il y avait une volonté claire de récupérer, de relever le nom. Oui. De relever le nom et de basculer dans le catholicisme en même temps. Hein. Mais ça, depuis, l'exemple le plus célèbre, c'est le prince de Condé. Hein. Dans les marchands d'âge, au moment de l'édit de Nantes, Henri IV était tenu de faire éduquer Henri II de Condé dans la religion catholique alors que son père était protestant. Sauf que son père est mort l'année où il est né. Donc il ne l'a jamais connu. Et donc ça faisait partie des tractations. Hein. Et donc Henri II de Condé était élevé dans le catholicisme, il est resté catholique. Et ensuite tous les Condés sont devenus catholiques. C'est comme ça qu'il n'y a plus de prince du sang dans la branche Condé au XVIIe siècle.
Bien, merci beaucoup. Voilà, merci de votre attention.
Nous souhaitons à tous un bon retour. La prochaine conférence, ce sera en décembre, sur les femmes protestantes, justement, le protestantisme des femmes. Je pense que ce sera Gabrielle Cadieret qui viendra nous parler de ce sujet, qui est une ardente et passionnante historienne, et qui se passionne pour ce sujet. Je pense qu'elle traitera plutôt des femmes au XIXe siècle, peut-être des femmes du réveil, comme Madame Walter, la femme de Edmond Pressensé. Donc je pense que ça tournera peut-être plutôt autour du XIXe siècle, mais c'est à voir, le sujet n'est pas défini encore. Mais en tout cas, on terminera avec les femmes, ou le protestantisme et les femmes, au mois de décembre, et on clôturera ainsi le cycle sur la diversité protestante. Merci encore beaucoup d'être venu, Monsieur Bach, et nous vous souhaitons à tous un bon retour.
Bonne soirée.